Bonjour à tous, c'est l'heure de Force 7, le magazine d'information régionale de Fréquence Mistral, proposé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Au sommaire de ce magazine, le nouveau palais de justice de Manosque a été officiellement inauguré par le garde des Sceaux. Nous entendrons Éric Dupond-Moretti dans un instant. Son collègue ministre en charge du tourisme, Jean-Baptiste Lemoine, a inauguré l'hôtel de ville de Gréoux-les-Bains et a évoqué le plan Destination Thermale, interview pour Force 7. À Sisteron, les élèves de la cité scolaire ont participé au quart d'heure de la lecture, le reportage de Chris Alessandri dans ce magazine. Auteur, compositeur et interprète, Dewis Mira prépare son second album et lance un financement participatif. Des détails dans ce magazine. Et puis pour clore ce numéro, nous entendrons une interview réalisée par Chris Alessandri. Notre collègue Odile Frison va chanter Barbara le 25 mars à Valensole. Manosque, le garde des Sceaux, inaugure le palais de justice.
Ministre de la Justice depuis 2 ans, Éric Dupond-Moretti est une forte personnalité et un avocat réputé. Accompagné de son ami le député Christophe Castaner et de la préfète Violaine Desmarais, il a coupé le ruban tricolore aux côtés du maire de Manosque, Camille Galtier, avant d'effectuer une visite en détail de l'imposant bâtiment. Regroupant tribunal de commerce et tribunal de proximité, l'édifice est l'œuvre de Christelle Filitico, qui a guidé le ministre dans chacun des espaces du palais de justice. On a senti frémir l'ancien ténor du barreau s'appuyant des deux mains à la barre de la salle d'audience, lumineuse, juste ce qu'il faut. Éric Dupond-Moretti a également pris le temps de parler et d'échanger avec les autorités judiciaires du département, comme avec les salariés du tribunal et du greffe. Saluant la réalisation architecturale, le ministre a évoqué les missions du lieu pour une justice plus rapide, plus proche et plus efficace. Écoutons un extrait de son intervention où les aspects locaux et nationaux sont étroitement liés. Éric Dupond-Moretti.
Le nouveau palais de justice, d'une superficie de 1247 m² précisément, accueille en effet le tribunal de proximité, le tribunal de commerce et un point justice du conseil départemental de l'accès au droit. Ce palais héberge un effectif de 13 personnes au total, comprenant 5 agents pour le tribunal de proximité et 8 personnes pour le tribunal de commerce. L'ouverture de ce bâtiment de plein pied sur de grands patios jardins intérieurs confère à la fois intimité et le calme nécessaire au travail des magistrats et des fonctionnaires. Le rapport au ciel, comme vous dites, dans une formule un peu mystique, instaure la solennité nécessaire au traitement des affaires judiciaires. La forme incurvée, les casquettes, s'accrochent au contour des voiries de la ZAC et accentuent le caractère monumental du bâtiment. C'est une très belle réalisation. À l'évidence, le souhait du gouvernement était de consolider l'implantation territoriale de la justice au plus près de nos concitoyens. Ce palais de justice est à l'image de la justice de proximité que j'appelle de mes voeux et pour laquelle je me bats. Vous avez ici, mesdames et messieurs, devant vos yeux, la concrétisation des moyens immobiliers qui sont mis au service de cette justice de proximité. Elle nécessite également des moyens financiers et humains que nous avons commencé à mettre en place. Je rappelle 2 augmentations successives de 8% du budget de la justice en 2021 et 2022, un recrutement de 698 magistrats, 850 greffiers, 2000 contractuels sur le quinquennat, une promotion de l'École nationale de la magistrature qui sera historique, Et je le dis d'un point de vue budgétaire, la justice n'a jamais été aussi bien dotée que ces 5 dernières années. Grâce à ce budget, la justice de proximité s'est déclinée dans tous les territoires, au civil et au pénal. Elle s'est traduite notamment par une augmentation des audiences foraines, et vous envisagez ici la création d'une audience foraine, audiences qui ont été multipliées, notamment dans les territoires ruraux. Ces audiences se tiennent dans des tribunaux de proximité ou encore dans des points de justice hébergés dans des lieux de justice qui avaient fermé leurs portes lors de la réforme de la carte judiciaire. Je pense à Louviers, à Villeneuve-sur-Notte, à Gien ou encore à Mauriac. Mais revenons ici, dans les Alpes de Haute-Provence, au tribunal judiciaire de Digne-les-Bains. 6 mois après la mise en place de la justice de proximité, nous pouvons nous réjouir d'une baisse de 28% du stock du contentieux des affaires familiales, 25% du stock du contentieux de la protection et enfin une baisse de 8% du contentieux du pôle social. Le mot de stock est assez désagréable. Il s'inscrit dans une espèce de logique capitalistique. Je ne l'ai pas inventé. Le stock, c'est quoi? C'est les dossiers en attente. Ce sont les jugements que nos compatriotes attendent. Je répète ces chiffres parce qu'ils sont remarquables. 25% affaires familiales, 28% stock du contentieux de la protection, 8% stock du contentieux du pôle social. Donc une justice plus rapide, plus proche et plus efficace. L'activité du tribunal de proximité de Manosque relève essentiellement du contentieux de la protection, notamment le contentieux des tutelles, du surendettement ou celui des baux d'habitation. Il y a également des conciliateurs de justice à qui je veux rendre hommage. Un service de soutien aux tuteurs familiaux ou encore la permanence de l'association d'aide aux victimes. Le partenariat associatif est absolument indispensable à la justice de notre pays. C'est donc bien la justice du quotidien que l'on retrouve dans ce palais de justice, celle qui touche la vie intime de nos concitoyens. J'en suis convaincu, la justice n'est jamais aussi grande que quand elle se préoccupe du sort des plus fragiles. Camus avait écrit « La justice est une chaleur de l'âme ». C'est cette phrase qui me vient à l'esprit quand je me rends dans un tribunal de proximité comme le vôtre. Nous avons donc mis le budget nécessaire, 3,9 millions d'euros pour que nos concitoyens soient reçus dans des conditions dignes, mais également pour que les magistrats et les agents qui travaillent ici à Manosque le fassent dans les meilleures conditions possibles. Mesdames et messieurs, c'est donc un grand plaisir pour moi d'être aujourd'hui à vos côtés à Manosque pour inaugurer ce beau palais de justice, symbole d'une justice ouverte, accessible, moderne, proche du justiciable, un symbole de transformation, une belle promesse d'avenir pour la justice. Mesdames et messieurs, je vous remercie.
Tourisme, Gréoux-les-Bains accueille son ministre.
Cité touristique incontournable du Verdon, Gréoux est également un pôle thermal de premier plan. Pour preuve, son maire, Paul Audan, préside l'Association nationale des maires de communes thermales, Gréoux étant au 3e rang des villes françaises d'une filière qui mêle habilement santé et tourisme. C'est le cas à Gréoux. Et la raison de la visite du ministre en charge du tourisme, Jean-Baptiste Lemoine, qui, outre l'inauguration officielle d'une mairie rénovée et la visite des thermes de Gréoux, a fait quelques annonces pour le secteur. Et dans le sillage du ministre, de nombreuses personnalités, les parlementaires du 04, Delphine Bagary, Christophe Castaner et Jean-Yves Roux, François de Canson pour la région, des conseillers départementaux, le président de l'agglomération manosquine et le maire de Manosque, sans oublier les représentants et responsables nationaux du thermalisme, ainsi que Patricia Granet-Brunello, maire de Digne, l'autre cité thermale des Alpes de Haute-Provence. La filière a beaucoup souffert de la crise sanitaire des confinements de 2020 et 2021, avec des fermetures contraintes durant de longs mois. Mais pendant cette période, les réunions en visio et présentiel furent nombreuses autour du ministre, qui a pris son bâton de pèlerin pour assurer la destination France à l'étranger. De là des rapports quasi amicaux entre tous ces acteurs, ponctués par des tutoiements sincères et plutôt inhabituels dans ce type de cérémonie. Avant de se rendre à Volx pour la présentation d'un projet immobilier, Jean-Baptiste Lemoine nous a accordé une interview. Il évoque le plan Destination Thermale et les liens tissés avec le secteur. Monsieur le ministre, quel est le sens de votre venue à Gréoux-les-Bains ?
Alors, il y a plusieurs motifs. Un, d'une part, nous venions ici inaugurer le nouvel hôtel de ville, magnifiquement réhabilité, qui permet une meilleure accessibilité pour les services publics à la population. Et puis, je dois dire que c'est un grand bonheur d'être aussi aux côtés de Paul Audan, également de Christophe Castaner, parce qu'on a travaillé tous ensemble, tout au long de la crise sanitaire, eh bien, sur... je dirais la résilience des villes thermales, parce qu'on le sait, le thermalisme il a été touché de plein fouet, parce que l'activité s'est arrêtée, parce qu'il a fallu trouver des mesures pour faire face. On y a travaillé ensemble, il est président de justement des communes thermales, et que donc c'était un moment important de reconnaissance de ce travail accompli, et puis aussi un message d'optimisme que j'adresse aux acteurs du thermalisme, puisque je présente aussi un plan destination thermale dans lequel l'État flèche un certain nombre de moyens, des moyens de promotion avec Atout France, pour valoriser les destinations thermales, des moyens aussi d'investissement pour aider les collectivités, les acteurs privés dans la réhabilitation, dans la diversification. En tout, 80 millions d'euros qui sont dédiés à cette filière thermale qui est une filière d'importance et d'excellence pour faire vivre nos territoires. Songez que la plupart des communes thermales sont des communes en milieu rural et nous avons ici... plusieurs centaines et même milliers d'emplois, et que c'est donc très important pour la France.
On vous a senti en phase avec justement la filière du thermalisme et les responsables. Vous avez même parlé de famille. Ouais.
C'est vrai, parce que je crois que la crise a rapproché d'ailleurs les décideurs publics, les décideurs privés. C'était tellement inédit qu'il a fallu trouver des solutions ensemble. Et au sein du comité de filière tourisme, eh bien, il y avait comme ça les représentants des communes thermales, comme Paul Audan. Il y avait les représentants des professionnels avec messieurs Dubois, avec le CNET et avec les élus aussi, les parlementaires, qui au sein du groupe d'études de l'Assemblée nationale portaient des solutions. Et grâce à ça, je crois qu'on a noué des liens très forts, des liens de travail bien sûr, mais aussi je pense des liens de solidarité dans l'épreuve. Et j'en tire aussi donc du positif, c'est que avant, finalement, le tourisme se faisait de façon un peu automatique. Tout ça fonctionnait sans trop que l'État y mette son nez. Et en réalité, l'État, je trouve, a pu se réengager, devenir un peu une sorte d'État stratège pour organiser des filières, pour donner des moyens aux filières. Aujourd'hui, on parle du thermalisme, mais je pourrais vous parler dans votre belle région également du nautisme, qui est une vraie filière. Je peux vous parler également de tout le tourisme de montagne. Et ici, dans ce département, vous êtes également concerné. Et c'est comme ça qu'on a, grâce à l'engagement du président de la République et du Premier ministre, mis en place des véritables plans. Plan pour la diversification de la montagne, plan Avenir Montagne, plan, je l'évoquais, pour la diversification aussi dans le thermalisme. C'est le plan que je suis venu annoncer aujourd'hui. Donc tout ça montre qu'il y a une prise de conscience sur l'importance de ces secteurs dans les économies locales.
L'un des effets positifs, entre guillemets, de la pandémie et du confinement, ça a été de développer le tourisme de proximité.
Exactement, un tourisme en circuit court. Des Français qui ont redécouvert la France. Et nous avons lancé dès 2020 une grande campagne avec le hashtag « Cet été, je redécouvre la France » pour les inciter, plutôt qu'à faire des milliers de kilomètres, de se dire que à portée de main, ils avaient à la fois des paysages, des patrimoines, des activités formidables, époustouflantes. Et j'ai coutume de le dire, on peut faire le tour du monde en faisant le tour de France, tellement il y a une diversité et une variété de paysages, encore une fois, d'expériences entre ce que vous offrez ici en région sud, entre ce qui peut être offert en Bretagne, en Alsace, etc. On voit des expériences très diverses et je crois que c'est ce qui fait la force de la France. On n'est pas numéro un pour rien dans le monde, c'est qu'on a, on est un kaléidoscope de destinations et d'expériences.
D'ailleurs, vous êtes à Gréoux ce matin, cet après-midi à Volx, vous avez les pieds dans la ruralité.
Exactement, les deux pieds dans la ruralité. Je suis moi-même élu d'un département rural, Lyon, comme sénateur, ayant été maire aussi. Et cette ruralité, elle est dynamique, elle est innovante, elle est conquérante. Et donc, je trouve qu'il ne faut pas tomber justement dans le pessimisme que peuvent porter certains. Cette ruralité, elle a de l'avenir. Et avec Joël Giraud, par exemple, avec Jacqueline Gouraud, on a mis en place des dispositifs comme Action Cœur de Ville, Petite Ville de Demain, pour justement qu'on ramène des commerces, qu'on ramène de la vie dans nos centres-villes, dans nos centres-bourgs. Et cette ruralité, je peux vous dire que le président de la République, il l'a à cœur très régulièrement. Il souhaite faire le point sur les sujets de médecine. Il est celui qui a, par exemple, permis de mettre fin au numerus clausus. Donc, dans quelques années, on aura plus de médecins. Donc, on espère plus de médecins dans nos zones rurales aussi. Tous ces sujets-là, donc, il les prend à bras le corps.
Dernier point, vous avez salué deux basalpins parmi les personnes que vous avez saluées, bien sûr, Christophe Castaner et Paul Audan.
Oui, parce que sont deux personnalités très attachantes que je connais depuis plusieurs années maintenant. Christophe Castaner était un des premiers compagnons de route du chef de l'État. Il a été donc de ceux qui ont osé tendre la main à des gens comme moi qui venaient de la droite et pour qu'on travaille ensemble pour la France. Et je trouve que ce dépassement, le fait de se retrouver sur l'essentiel, c'est-à-dire notre pays, eh bien voilà, a beaucoup de valeur. Je tenais à lui rendre hommage aujourd'hui. Et puis Paul Audan, parce que voilà, c'est un maire créateur, bâtisseur. Il a hérité d'une commune à la longue histoire et par ses actions, eh bien, il fait en sorte que cette histoire se perpétue, adapté naturellement autant qu'on connaît à toute l'évolution technologique, mais faire de Gréoux, c'est bien voilà, cette commune où il fait bon vivre et bien vivre.
Premier quart d'heure de lecture à la cité scolaire de Sisteron.
Une vraie première pour le quart d'heure lecture à la cité Paul Arène de Sisteron, conformément à la note de l'Académie du 3 octobre 2018 adressée au recteur, il s'agit d'organiser dans les établissements scolaires un temps quotidien de 10 à 20 minutes de lecture personnelle, partagée collectivement. Seul le silence et la possession d'un livre librement choisi sont obligatoires. Cette action s'inscrit dans le cadre du plan interministériel de mobilisation en faveur du livre et de la lecture, une dynamique qui vise à développer chez chacun le goût de la lecture par une fréquentation régulière des livres et de l'écrit. Elle contribue à développer les compétences permettant de devenir des lecteurs autonomes en portant une attention particulière aux élèves les plus en difficulté ou les plus réticents. L'ensemble de la communauté scolaire est concerné. En pleine lecture au cœur de la cité Paul Arène, Corinne Guesquier, proviseur de l'établissement Sisteronais, Geneviève Pugue, professeur documentaliste et quelques élèves des classes de l'établissement répondent aux questions de Chris Alessandri.
C'est une journée qui a été initiée au niveau national par le ministère de l'Éducation nationale. Et quand nous avons eu l'information, la communication, Madame Pugue et moi-même, ainsi que Madame Maté, qui est documentaliste du collège, nous avons sauté sur l'occasion pour faire ce quart d'heure de lecture qui nous tenait à cœur.
Madame la proviseure, ça concerne combien d'élèves ici présents sur le site?
Alors, au total, c'est collège-lycée, ça représente un peu 1100 élèves, 1150. Et tout le monde en même temps. Donc c'est une première hein, pour nous. Nous ne l'avons jamais fait. Donc on a communiqué beaucoup, on a fait des affiches. Madame Pugue a distribué des livres. Et surtout, ce qui est important, c'est que ce ne sont pas que les élèves, ce sont tous les personnels. C'est-à-dire, comme je l'ai mis sur la fiche, c'est tous. C'est-à-dire professeurs, personnel agent, secrétaires, enfin tous les membres de la communauté éducative présents à cet instant sur la cité scolaire.
Quel est le fil conducteur? Est-ce qu'il y a un fil conducteur à cette journée?
Alors, il y a une association qui s'appelle Silence on lit et qui œuvre déjà depuis plusieurs années dans les établissements scolaires et sur la base d'une lecture hebdomadaire. En fait, notre fil conducteur, ici, c'est pas vraiment un fil, c'est une brique, parce que un quart d'heure de lecture dans l'année, c'est peu, mais on a vraiment un projet construit autour de la lecture et de l'écriture. D'ailleurs, on a demandé à participer à une résidence d'auteur et on attend incessamment sous peu la réponse. Donc, ce quart d'heure, aujourd'hui, s'inscrit bien sûr dans un dispositif national, mais pour nous, ce n'est qu'une brique. Une brique d'un ensemble et d'un tout, en faveur de la lecture et de l'écriture.
Justement, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre réaction face à cette belle initiative, à cet événement? Votre réaction?
Notre réaction, c'est qu'on souhaite que ce ne soit pas la première brique, surtout. C'est qu'il y en ait beaucoup et qu'on soit en train de construire quelque chose.
Et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour remercier Madame Guesquier, parce qu'il y a vraiment une volonté en faveur de la lecture et de l'écriture. Madame Maté, qui est l'enseignante documentaliste du collège, et moi-même, les deux référents culture, Madame Rioux et Monsieur Berger du collège, et moi-même, puisque j'ai ces deux chapeaux, nous avons sauté sur l'occasion et nous ne l'avons pas lâché.
Dans le déroulé chronologique, comment ça va se passer aujourd'hui?
Alors là, on essaye, on voulait mettre une musique différente, ça ne va pas fonctionner, donc c'est l'agent d'accueil qui va diffuser en fait un message à l'ensemble de la cité scolaire. On va utiliser les canaux du PPMS pour qu'elle lance le top départ et elle lancera le top fin à l'issue des 15 minutes de lecture. Madame Pug et Madame Maté ont distribué des livres partout, les professeurs sont venus en chercher, les élèves aussi. Après, on n'impose pas la lecture, l'élève peut lire ce qu'il veut. Par contre, on a dit pas de lecture sur le téléphone portable. Alors peut-être la deuxième brique, ce serait un stop téléphone portable qu'un quart d'heure peut-être. Enfin non, j'ai rien dit.
Vous êtes au contact direct des principaux intéressés, les élèves. Quelles sont leurs réactions? Comment est-ce qu'ils prennent cette journée, cette action?
Eh bien, en fait, on va s'en rendre compte après le quart d'heure, je pense. Je crois que ça va être aussi un test pour nous, voir. Moi, je remarque un retour vers les livres. Est-ce que c'est dû aux périodes de confinement, etc. Mais je trouve que c'est plutôt encourageant. Ça nous met dans des bonnes dispositions pour entamer d'autres actions en faveur de l'écriture, la lecture. D'autant que là, pour la résidence d'auteur, on pourrait être soutenu par le Centre National du Livre, le CNL, qui a lancé cette action aujourd'hui. On espère se distinguer. On a communiqué de façon numérique, mais là, on est dans le papier. C'est-à-dire la lecture de périodiques, manga, BD, romans, nouvelles. On a préparé des petits paniers avec les personnes qui travaillent avec moi au CDI, en mélangeant un peu tous les genres pour que tout le monde y trouve son compte.
Je remercie Madame Pug aussi énormément. Et puis, je pense que si vous regardez, vous verrez que vous avez un CDI qui est extrêmement riche. Ça, c'est son œuvre. Hein. Et depuis de nombreuses années, elle est à la manœuvre pour justement inciter les jeunes à lire. Et ça fonctionne. Et il faut retrouver le goût de la lecture. La lecture, c'est l'évasion. La lecture, c'est éviter de mourir. C'est...
Au début, on vous donne rendez-vous pour les résidences d'auteurs, parce que moi, je croise les doigts. Je suis optimiste, je pense qu'on va être retenu.
Posez vos stylos, prenez un livre, évadez-vous pendant un petit quart d'heure. Merci.
Je voudrais pas vous déranger trop longtemps, vous êtes en pleine lecture. Qu'est-ce que vous pensez d'un événement comme celui-ci, d'une action qui est menée ici?
Je trouve ça très bien. Comme ça peut nous permettre de découvrir certains livres. Et vu que beaucoup de jeunes ne lisent plus ces temps-ci, ça peut permettre du coup de lire.
Qu'est-ce que vous lisez?
D'une monarchie à l'autre.
Pourquoi?
Parce qu'il m'avait l'air intéressant. Et voilà.
Est-ce que vous pensez qu'une action comme celle-ci, ça va justement interpeller les personnes qui auraient tendance peut-être à s'éloigner un peu de la lecture?
Après, il y a chacune personne qui préfère un genre de lecture, donc s'ils trouvent le genre qu'ils préfèrent, je pense qu'ils pourraient tous lire.
Du coup, je trouve que c'est assez intéressant pour... ça peut nous aider à découvrir plus de lectures, comme Moya Kamrad l'a dit. Et comme l'a dit aussi, il y a beaucoup de jeunes qui lisent de moins en moins, et c'est extrêmement dommage pour la culture française et la culture littéraire. Et c'est super intéressant et ça va nous aider. Et c'est un temps calme qu'on peut prendre dans notre journée, qu'on n'a pas souvent le temps de prendre quand on est interne comme nous.
Qu'est-ce qu'on peut dire de cette ambiance assez exceptionnelle qu'on retrouve ici dans cette classe?
C'est très bizarre, très très bizarre, mais c'est agréable.
C'est moins bruyant?
Beaucoup moins. D'habitude, il y a toujours du bruit et là, il n'y a rien et c'est super agréable.
Est-ce que ce style d'expérience, ça va vous inciter à poursuivre la lecture ou alors vous lisiez déjà avant?
Alors je lisais déjà avant, mais c'est vrai que ce genre d'expérience, c'est agréable parce que ça permet de prendre un temps pour lire au lycée qu'on n'a pas forcément comme on est interne, parce qu'il faut emmener nos livres. Mais je lisais déjà avant, donc ça ne me change pas grand-chose personnellement.
Qu'est-ce que vous éprouvez quand vous lisez?
Je sais pas, je pense que c'est surtout un passe-temps et que ça me permet un peu peut-être de m'évader aussi de la réalité.
Alors moi, j'avoue que je ne suis pas un très grand lecteur, je lis quasiment jamais. Et en fait, ça permet de découvrir, je suis les informations par exemple, à travers Internet. Et là, ça me permet de les suivre plutôt par papier, ce qui est aussi pas mal.
Et le principe de l'univers qu'on retrouve, un univers peut-être en parallèle, qu'est-ce que vous en pensez?
Eh ben, je trouve ça pas mal, ça permet de s'évader, de se couper du monde, de lire. C'est un, comme une activité sportive un peu, c'est un loisir. C'est ce qui permet de nous de décrocher de l'école, par exemple.
L'ambiance, ça vous met bien ?
L'ambiance est, ouais, elle est pas mal, ouais. L'ambiance est calme.
Deuxième album de Dewis, Mira, avec un financement participatif.
Auteur, compositeur et interprète, Dewis Mira prépare son second album et pour ce faire, l'artiste originaire d'Oraison lance une campagne de financement participatif pour la production de son deuxième opus d'influence anglo-saxonne acoustique. Il reste un peu plus de 3 semaines pour pouvoir finaliser ce projet de soutien à un artiste à découvrir. Pour cela, il suffit d'aller sur le site Hello Asso Dewis Mira et de participer avec un montant libre en fonction des capacités de chacun. Reportage Odile Frison.
Dewis Mira, vous êtes auteur, compositeur, interprète. Vous aviez sorti un premier album en 2018 sous le nom de M. Dewis. Aujourd'hui, quelle est votre actualité ?
Eh bien, je lance la production d'un nouvel album dont l'écriture a pris plusieurs années en fait. Donc les sources d'inspiration n'ont pas manqué ces derniers temps, on va dire. Voilà, donc là je lance la production, c'est-à-dire que les titres sont écrits et composés et puis on est en train de démarrer les phases de studio, d'enregistrement.
Alors votre premier album était écrit en français avec pourtant un titre en anglais, It's Never Too Late. Votre influence à ce moment-là, c'était, enfin, vous avez fait une chanson un peu hommage à un musicien trop tôt disparu. Est-ce qu'on peut revenir sur cet artiste ?
Oui, tout à fait. En fait, mon influence principale, on va dire que c'est la musique folk anglo-saxonne. C'est vrai que j'avais voulu rendre hommage à l'artiste Nick Drake, qui est vraiment un des artistes qui me touche et m'inspire le plus. Mais en revanche, je suis aussi très, très passionné et animé par les textes. Et donc, évidemment, j'écris en français. Quelle superbe langue pour pouvoir s'exprimer. Donc, dans ce nouvel album, on gardera l'esprit de musique folk anglo-saxonne au niveau des mélodies. On aura toujours les textes en français et avec des textes qui seront encore plus travaillés, qui iront encore plus loin dans la philosophie, dans la poésie, dans, voilà.
Vous parlez d'éventuellement de textes engagés ?
Aussi, pas que. Je veux pas avoir une image d'artiste engagé dans le sens où je ne fais pas que ça. Mais aussi, bon, les gens qui me suivent savent que je suis un grand défenseur de la liberté, n'est-ce pas ? Donc, évidemment, avec tout ce qui s'est passé, je vais amener un petit peu les gens à se questionner sur ce qui se passe en ce moment dans le monde, mais pas que. Il y aura aussi, évidemment, des choses plus philosophiques sur le sens de la vie en général. Qu'est-ce que la vie ? Qu'est-ce que la mort ? Qu'est-ce qui se passe entre les deux ? Les sentiments, la profondeur de l'être humain, l'amour. Voilà, beaucoup de thèmes seront abordés.
Donc là, les chansons sont prêtes à être enregistrées. Pour ça, vous demandez donc une participation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous aider à enregistrer ce CD ?
Voilà, donc j'ai lancé une campagne de financement participatif, voilà, en français, puisque certains appellent ça les campagnes de crowdfunding, mais en français, donc campagne de financement participatif. Donc j'avais déjà fait ça, en fait, pour le premier album, et j'aime bien l'idée, c'est-à-dire, bon, au-delà, en plus, du fait que avec ce qu'on vient de vivre par rapport au virus, les finances sont au plus bas pour pas mal d'artistes dont je fais partie, hein, pour ne rien cacher. Mais puisqu'on n'a quasiment pas pu travailler depuis plus de 2 ans, donc c'est forcément difficile de sortir un album en cette période. Mais bon, au bout d'un moment, il faut vraiment se lancer parce que de toute manière, l'actualité est tellement incertaine que on pourrait reporter ad vitam aeternam. Pour en revenir à la campagne, donc c'est simplement une campagne participative, c'est-à-dire que j'invite des gens qui aiment ce que je fais, qui me suivent, qui ont envie de me soutenir à donner une petite participation et en contrepartie. Donc j'ai créé plusieurs contreparties sur le site, on peut choisir un album dédicacé, un concert à la maison, un recueil de poésie également, voilà, parce que j'ai aussi quelques textes que j'ai écrits qui sont vraiment amenés à rester des écrits de poésie et qui seront pas mis en musique. Voilà, donc cette campagne est sur le site Hello Asso, H-E-2-L-O, Asso, A-2-S-O. Voilà, donc il suffit d'aller sur le site et de taper Dewis Mira ou encore mieux d'aller sur mon Facebook, Dewis Mira aussi. Donc Dewis, c'est D-E-W-I-S, je précise. voilà, Mira, M-I-R-A, ou sur mon site internet, davismira.fr.
On rappelle que vous êtes originaire de Oraison et que vous êtes un peu connu dans le coin quand même avec vos concerts. C'est indispensable d'avoir un album à proposer pour les concerts de nos jours. Il faut ça, il faut ce soutien.
Je sais pas, personnellement, en tout cas, je raisonne jamais en termes de commerce ou de publicité. Je fais la publicité après parce que je veux que mon art soit entendu, en fait. Mais aujourd'hui, effectivement, si vraiment on regarde les choses telles qu'elles se passent, les albums, c'est peut-être pas le plus judicieux. Il vaut mieux sortir des singles, en fait, puisqu'avec le format numérique, les gens écoutent assez peu le format album en entier, quoi. Ça permet à chaque fois de vous référencer, le fait de sortir des singles et d'être un petit peu, d'avoir un petit peu de l'actualité sur les playlists, etc. Mais bon, moi, personnellement, je trouve que un album, c'est une œuvre à part entière, en fait. Il y a un esprit complet. Publier un titre comme ça tout seul, ça me parle pas. Et voilà, déjà, si je m'écoutais les albums, ce serait peut-être encore plus long et encore plus, voilà, j'essaie déjà de me contenir, quoi, mais non, je trouve que c'est indispensable pour, ne serait-ce que pour les quelques résistants qui sont encore vraiment passionnés par la musique, par l'écriture, par l'art en général, qui ont envie de se poser et vraiment de se plonger dans un univers. Voilà, moi, ne serait-ce que pour ces personnes-là, j'ai envie de continuer ce format, ce qui m'empêche pas en parallèle, évidemment. On va sortir un premier single, puis un second, voilà, avant la sortie de l'album en lui-même. Voilà, je trouve que c'est bien aussi parce que, au-delà de ce côté, entre guillemets, commercial, c'est bien de donner un premier aperçu, puis de donner un petit peu l'envie. Moi, je sais que personnellement, j'aime bien ça aussi en tant qu'auditeur. Donc ça, on va le faire. Mais pour moi, sortir des albums, c'est indispensable, quoi. Imaginez si les écrivains se mettaient à ne faire plus que des nouvelles ou des extraits, ou ce serait un petit peu dommage, quoi. Je pense qu'on a besoin de se plonger dans un bouquin et de rentrer dans l'histoire et de voyager, quoi. Pour moi, c'est un peu la même chose pour la musique.
Donc là, votre campagne de soutien est lancée, et une campagne de financement participatif. Est-ce qu'il y a un délai impératif où vous ne fixez pas vraiment de limite de temps et de montant aussi, on va dire.
Oui. Là, en fait, donc elle est lancée depuis peu, voilà. Donc il reste précisément 34 jours au jour d'aujourd'hui pour participer. Voilà, après les dons précoces, c'est toujours bon, puisque évidemment ça incite un petit peu les autres à participer. Mais voilà, pour l'instant je suis content, ça commence pas trop mal. Je commence à recevoir pas mal de messages de soutien, pas mal de participation sur le site et pas mal d'articles, d'interviews. Donc je suis vraiment content que ce soit accueilli comme ça. Ça me booste d'autant plus pour faire ce bel album. Vraiment, cet album encore plus axé, disons chanson, c'est-à-dire vraiment de très beaux textes, bien écrits, sur une guitare acoustique, avec des arrangements assez épurés, quelque chose d'assez organique et vrai.
Vous serez accompagné d'autres musiciens que vous à la guitare et au chant ?
Oui, tout à fait. J'ai mon ami Peter Dale qui sera là, fidèle au poste, voilà, avec son clavier, avec sa basse. J'ai aussi une superbe choriste qui est une ancienne chanteuse soprano à l'opéra, qui va faire un petit peu des chœurs avec moi, donc c'est une nouvelle personne qui va intervenir sur le projet. Puis après, je suis un petit peu en pourparlers avec quelques musiciens qui interviendront sûrement de ci, de là, voilà. En fait, on fait des essais pour les arrangements, je vais faire des essais, il y a des choses que je vais garder sur ce que moi je vais jouer, puisque je suis un petit peu multi-instrumentiste aussi. Et puis les choses qui conviennent pas, on va un petit peu avec mes connaissances au fur et à mesure du projet, voilà. Il y aura quand même évidemment pas mal d'arrangements, mais ça va être plus subtil et encore plus acoustique que dans le premier album.
Barbara et moi, avec Odile Frison sur scène.
Et pour être complet, notre collègue journaliste et animatrice de Digne sera accompagnée par la pianiste et concertiste Marjorie Bourgois, qui a réalisé les arrangements. C'est un récital plein d'émotions et une promenade variée dans la chanson française que propose Odile Frison avec son spectacle Barbara et moi. Le concert a lieu à Valensole, dans les Alpes de Haute-Provence, vendredi 25 mars à 18h30, un concert où Odile incarne à la fois les nombreuses facettes de la grande dame brune, tout en interprétant quelques-unes de ses propres compositions. Lors de ce concert, les deux artistes font revivre avec talent et humour l'essentiel de l'œuvre de l'inoubliable Barbara. Odile Frison, auteure, compositrice et interprète, répond aux questions de Chris Alessandri.
La faute est bonne, je en deuxième colonne. Il y a le voyou du jour qui a une petite gueule d'amour dans la rubrique.
Odile Frison, nous connaissons bien l'animatrice et journaliste que vous êtes sur Fréquence Mistral. Il y a également l'artiste que vous êtes, la chanteuse, l'auteur, compositrice et interprète.
Oui, oui, j'écris des chansons depuis une bonne quinzaine d'années, on va dire maintenant, écrites sur mon quotidien, qui sont assez connotées de tendresse et d'humour. C'est le côté qui me caractérise bien dans mon écriture.
Est-ce que pour vous c'est un peu un univers disons complémentaire à la radio ou alors c'est un tout en fait composé la chanson, la musique, la poésie, la radio?
Je dirais que ça va bien avec la radio. On retrouve un peu la capacité d'improviser certaines fois quand on est sur scène ou quand on écrit.
La poésie, le texte, c'est quelque chose que vous avez en vous. Vous avez vraiment cette fibre. La poésie, la musique, c'est un peu l'unisson, l'univers dans lequel vous vivez et vous avez besoin de vous exprimer également sur scène. Et pour ça, il y a une grande dame qui est une, je pense, plus qu'une référence dans votre vie. C'est une complice, on peut dire.
Ah, Barbara, oui, bien sûr, elle m'accompagne depuis longtemps. Barbara, c'est vraiment, j'adore son écriture, j'adorais sa voix. Un peu plus de ses débuts qu'en fin de carrière, mais oui, c'est vraiment une grande dame de la chanson française et que je chante d'ailleurs, que je reprends depuis quelques années aussi.
Bon, Odile, prochainement, c'est le spectacle à Valensole dans le cadre du Printemps des Poètes avec les poètes des Hautes Terres que vous allez donc vous retrouver sur scène. Cette complicité avec Barbara, on va la retrouver sur scène avec ce côté que vous avez aussi vous-même, naturellement, sans doute, le côté espiègle. Est-ce que vous l'avez, vous aussi, ce côté espiègle et en même temps un peu sombre et profond aussi qu'il faut avoir sur scène pour transmettre Barbara?
Oui, oui, c'est le côté que j'aimais beaucoup chez Barbara. Enfin, tout le monde le dit, hein, elle n'était pas que triste et mélancolique. Elle avait beaucoup d'humour et on retrouve dans certaines de ses chansons cette légèreté. Et c'est aussi ce que je ressens fortement dans mes chansons, c'est-à-dire que l'humour est bien présent et permet de faire passer beaucoup de choses à travers l'humour.
Alors, le titre du spectacle, hein, c'est Barbara et vous. Alors, justement, Barbara et vous, vous-même, comment en parler de cette accroche, en fait, Barbara et vous?
Alors, le spectacle s'appelle Barbara et moi, et c'est donc l'occasion pour moi, puisque c'est difficile de faire venir les personnes qui connaissent pas mon répertoire, mon univers. Rares sont ceux qui vont oser écouter comme ça, découvrir, quand on n'est pas habitué à une salle de spectacle avec une programmation régulière. Donc, le fait de reprendre Barbara en première partie de mes chansons, ça va permettre de toucher un public et de les amener à découvrir mon univers en douceur. C'est une façon d'élargir le public plus facilement pour ceux qui ne connaissent pas du tout mes chansons.
Voilà. Est-ce que vous alternez avec vos créations sur scène? Comment ça se passe?
Eh bien, pour ce spectacle-là, je vais faire une dizaine de chansons de Barbara en première partie et ensuite, je les mélange pas. Enfin, après, ce sera ma deuxième partie avec mes chansons, mon répertoire. Ce sera bien distinct.
Avec des surprises, parce qu'en deuxième partie, il y a le petit côté sympa que vous amenez également sur scène.
Voilà, je pense que le public va être surpris, puisque ça reste donc des textes légers, et en même temps, il y a des rythmes. Donc je suis accompagnée au piano par Marjorie Bourgois, ça fait quand même 3 ans maintenant qu'on travaille ensemble. Elle est professeure de conservatoire à Digne-les-Bains, mais elle est aussi concertiste de musique classique. Et elle s'est mise avec moi à me suivre, à m'accompagner pour Barbara au départ. Et puis maintenant, elle s'est frottée à mes chansons. Et c'est avec un grand plaisir qu'elle me fait les arrangements sur du blues. C'est des airs qu'elle n'avait pas trop l'habitude de travailler au piano. Et je dois dire qu'elle y prend beaucoup de plaisir. Et ça, c'est vraiment très agréable d'avoir une accompagnatrice qui soit vraiment à l'écoute et en connivence avec moi, quoi.
Odile Frison, donc cette complicité que vous avez avec Marjorie Bourgois, eh bien, elle est également avec ce public, hein, vous le disiez. Donc le public, c'est vraiment l'élément essentiel, votre complice de la scène, en quelque sorte, pour ce spectacle.
Oui, c'est ça, c'est ça. Le public est d'ailleurs souvent sollicité pour chantonner les refrains avec moi sur la scène. C'est un vrai plaisir de partager. On peut dire que c'est quand même beaucoup de joie et de bonne humeur à partager ensemble.
Est-ce que poésie en chanson, ça définit complètement l'univers dans lequel vous nous entraînez?
Oui, 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 tout à fait.
Pour parler un tout petit peu simplement du lieu même, ça va se passer quand? Pour rappeler également les dates au niveau du spectacle. Donc, Barbara et moi, c'est le titre du spectacle avec vous, Odile Frison.
Alors, c'est le vendredi 25 mars à 18h30. dans la salle de cinéma, la salle Tardieu à Valensole. Une très jolie salle avec des gradins et elle est située en dessous de la mairie de Valensole. C'est donc à 18h30 et c'est une recette au chapeau, un chapeau pour les artistes.
Odile, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette soirée ?
Eh bien, que tout aille pour le mieux, que le public soit nombreux. Il y a à peu près 80 places dans la salle et j'espère que le public sera nombreux, d'autant que le pass sanitaire ne sera plus obligatoire. Donc, on imagine que peut-être la salle sera pleine.
Si la photo est bonne, si la photo est bonne, si la photo est bonne.
C'est la fin de ce magazine. Merci François. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Force 7.
Oui Olivier, merci pour la régie. À bientôt.